France Culture, Avoir raison avec René Dumont, par Sylvain Bourmeau.
René Dumont est-il un agronome préoccupé par le tiers-monde mais attaché au productivisme agricole qui se serait, vers la fin de sa vie, découvert écologiste? Ou bien écologiste l'était-il dès l'enfance dans la ferme familiale, ce rapport à la nature ayant guidé tous ses choix de vie et trouvant sa formulation la plus nette dans son livre manifeste de 1973, L'utopie ou la mort? Eh bien, c'est la question que nous nous poserons au cours de ce troisième volet de la série Avoir raison avec René Dumont. Après avoir, dans ce premier volet de la série, parlé de sa trajectoire en insistant beaucoup sur le pacifisme de René Dumont, très structurant, il a été marqué par la Première Guerre mondiale et il restera marqué par la guerre. Il suffit de se rendre compte de sa réaction au moment du déclenchement de la première guerre du Golfe en 1991. Hier, nous parlions de René Dumont, agronome et tiers-mondiste, les deux étant liés puisque c'est sur le terrain de l'ex-empire colonial de l'Indochine qu'il a découvert une autre manière de faire ce qu'il a fini par appeler de l'agriculture comparée et qui continue d'exister aujourd'hui. Dans une chaire d'agroparitech et aujourd'hui, eh bien, c'est ce moment particulier, ce livre en particulier publié en 1973, L'utopie ou la mort, qui précède d'un an ce dont nous parlerons demain, c'est-à-dire sa candidature à l'élection présidentielle de 1974. Ce livre dont nous allons parler avec Christophe Bonneuil, qui a rédigé une préface pour une nouvelle édition de ce livre. Christophe Bonneuil est historien, directeur de recherche au CNRS, et il est actuellement quelque part à quelques centaines de mètres de la maison de la radio. Il marche vers nous, on l'aura sans doute au téléphone pour commencer l'émission. Bonjour Christophe Bonneuil.
Bonjour.
Voilà, ça va rendre l'émission très, très vivante, mais vous allez finir par nous retrouver en studio et vous vous asseyrez en face de Catherine Larrère qui est avec nous, déjà bien installée. Bonjour Catherine Larrère.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à Paris 1 et vous travaillez sur ces questions d'écologie depuis fort longtemps maintenant également. Avant de commencer, on écoute précisément en 1973 et déjà sur France Culture, dans une émission qui s'appelait Dialogue, René Dumont, à propos de son livre L'utopie ou la mort.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'utopie en somme ? L'utopie, c'est une solution qui n'est pas acceptable actuellement parce qu'elle n'est pas acceptée par l'opinion publique courante. Donc, elle n'est pas réalisable. Et cependant, j'estime que, en l'état actuel, les gens qui sont raisonnables, qui ne sont pas utopiques, nous mènent à la catastrophe. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu réhabiliter le socialisme utopique que Karl Marx avait condamné un peu vite, parce que lui-même d'ailleurs, à un moment donné, ne s'était pas craint de se lancer dans certaines formes d'utopie. Quand Karl Marx nous décrit la société du communisme, dans laquelle chacun disposera de tout ce qu'il voudra, l'extrême abondance, et à chacun selon ses besoins, c'est évidemment une vue qui me paraît parfaitement utopique. Par ailleurs, ce dépérissement de l'État, et cette évocation que fait Marx d'une société qui n'évoluera plus parce qu'elle sera arrivée à la perfection. Je pense, pour le bonheur de nos arrière-petits-enfants, que cette perfection, nous ne l'atteindrons jamais parce que ce serait une catastrophe. Il n'aurait plus de contestation possible, il n'aurait plus, de recherche nouvelle possible, il serait arrivé à la perfection, ce serait la fin de... Non, je crois que cette hypothèse nous menace peu.
On entend bien la façon dont René Dumont, en 1973, se positionne à l'intérieur de la gauche à propos de ce mot utopie, en référence et en opposition à Karl Marx. Comment, Christophe Bonneuil, comment peut-on caractériser ce livre lorsqu'il paraît et dans quel panorama paraît-il ?
Alors, René Dumont, d'une part, c'est vraiment un grand témoin du XXe siècle. Hein. Il a connu les guerres, la colonisation, il est devenu anticolonialiste, comme on l'a vu dans les émissions précédentes. Il était un grand prêtre du productivisme agricole pendant la Deuxième Guerre mondiale et à la Libération. Et il se convertit à l'écologie entre 70 et 73, effectivement, dans un contexte où la question des règlements planétaires se retrouvent à l'agenda mondial avec la conférence de Stockholm en 1972, avec toute une série de rapports internationaux sur l'état de la planète, et avec des premières législations assez strictes prises par Nixon, qui n'était pourtant pas un grand démocrate écologiste, mais qui, sous la contrainte de sa société civile, va prendre un certain nombre de nouvelles régulations sur les pollutions, créer l'équivalent du ministère de l'Environnement, l'EPA aux États-Unis. Et on va voir de nombreux pays, dans les pays industrialisés, qui créent des ministères de l'Environnement autour de 71. Donc Dumont arrive à ce moment-là, au moment où sort en 1972 le rapport sur les limites de la croissance, s'appelle Limits to Growth, au Club de Rome, et il dit qu'il a été saisi à la gorge par ses travaux. Et puis il va passer un été à Columbia aux États-Unis, auprès de Barbara Ward, une économiste qui participe à la préparation de la conférence de Stockholm. Et donc il va être fortement mis en contact, exposé à tous ces travaux d'écologie planétaire qui documentent le recul de la forêt, le recul de la biodiversité, l'alerte climatique déjà sur le réchauffement climatique, puisqu'il parle d'une montée des eaux de plusieurs dizaines de mètres dans l'utopie ou la mort. Il est finalement plongé dans ce contexte de mise en politique de l'environnement global.
On va revenir sur le contenu du livre, c'est l'originalité de sa réflexion et peut-être son côté précurseur par rapport à un certain nombre de livres qui paraissent beaucoup plus récemment. Mais avant ça, et toujours pour parler de ce moment et de ce qui l'a précédé, Catherine Larère, vous avez eu l'occasion de croiser René Dumont avant cette période-là, avant ce début des années 70, à un moment où il était encore, d'abord peut-être et avant tout, perçu comme un militant anticolonialiste, évidemment comme un chercheur et un enseignant en agronomie.
Alors moi j'ai connu René Dumont en tant que compagne et femme de Raphaël Larère, qui avait fait ses études à l'agro pendant la guerre d'Algérie, et qui témoignait du fait que Dumont s'opposait pendant la guerre d'Algérie à des étudiants Algérie française qui étaient très puissants à l'agro, et donc il était hué par l'amphi. Et bon, il y avait un certain nombre d'étudiants qui le soutenaient, comme mon mari. Et mon mari s'est ensuite retrouvé à la chaire, effectivement, d'agriculture comparée, hein, de l'agro, où il était assistant de Dumont et de Mazoyer en même temps. Et effectivement, Dumont, c'était pour moi, qui à l'époque, à cette fin des années 60, début des années 70, n'avais pas idée de l'écologie, hein, même si je travaille depuis longtemps, ça, j'y suis venu plus tard, c'était effectivement un anticolonialiste. Et moi, je l'ai toujours vu à travers Raphaël comme un agronome. Quelqu'un, et un agronome qui n'était pas un agronome théoricien, qui était un agronome de terrain, et qui donc, Dumont, c'était quelqu'un qui allait à peu près n'importe où dans le monde, regardait la terre, regardait ce qui poussait, et disait, vous devriez planter plutôt ça. Donc, d'entrée de jeu, même quand il était encore productiviste, qui soutenait la révolution verte, etc. Je pense que c'est ce rapport au terrain, ce rapport à l'agronomie comme une science du milieu,
mais une science
qui
très
a
informée,
pu en faire un écologiste.
Une science très informée, on en parlait hier, par les sciences humaines et sociales aussi, et par cette méthode comparatiste. Est-ce qu'il distinguait peut-être d'agronome plus biologiste, en quelque sorte?
Tout à fait. Et c'était l'esprit général de l'agro, d'ailleurs, à l'époque, hein, où les agronomes avaient lu Bachelard et avaient donc une idée, qui est notre idée aujourd'hui, du sol comme une totalité. Et pas simplement comme un support qu'on va maîtriser.
Alors, je le disais, vous êtes devenu depuis longtemps l'une des philosophes qui travaille le plus sur ces questions d'écologie en France. Et vous vous souvenez de ces années 70 et de ce moment dont parlait à l'instant Christophe Bonneuil, où il y a le Club de Rome, où il y a cette conférence de Stockholm, où on commence dans l'espace public à parler de ces questions. Comment vous receviez ces nouvelles, Catherine Larère?
Mais je dirais, on les a reçus on n'était pas, à l'époque, on était maoïste, hein, donc on n'était pas très écolo et très poussé sur l'écologie. On les a reçus à travers Dumont. Parce que quand Dumont s'est présenté en 74, bon, vous allez en parler demain, mais quand il s'est présenté en 74, il a fait un tour de France, comme tous les comme tous les candidats. Et il est passé par Clermont-Ferrand, où Raphaël et moi habitions à ce moment-là. Et on l'a logé à la maison, parce qu'il ne devait pas avoir une logistique très, 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 très argentée. Donc il a logé chez nous. Et il a fait une réunion de paysans. Il est allé à une réunion de paysans à 30-40 kilomètres dans les Dômes de Clermont. Et je me souviens, il a dit, mais au fond, je reviens à mes débuts, parce qu'il n'y avait pas grand monde, en fait. Je reviens à mes débuts parce que j'ai commencé comme ça avec des réunions de paysans. Donc, pour moi, le fil conducteur, c'est l'agronome.
L'agronome, un agronome quand même qui est saisi, vous le disiez, Christophe Bonneuil, par un certain nombre d'annonces, de nouvelles, de réunions, de choses qui se passent en ce tout début des années 70 autour de ces questions écologiques, et qui va écrire assez vite. Ce sera pas son premier livre. On se rappelle que 10 ans auparavant, il avait publié ce livre sur l'Afrique qui avait rencontré un certain succès public également. Et L'Utopie ou la mort, 1973, va être, je ne sais pas si on peut parler de best-seller, en tout cas un livre qui rencontre un public certain, qui prépare les choses. Vous avez, Christophe Bonneuil, écrit une préface pour une réédition récemment. Qu'est-ce qui a justifié, à vos yeux, la nécessité de le mettre en contexte, et comment peut-on lire ce texte aujourd'hui? Comme un document, comme une contribution importante à la pensée écologique?
Alors, d'une part, j'ai eu la chance, comme Catherine, de rencontrer René Dumont. Un peu plus tard, quand j'avais la vingtaine, je faisais ma thèse en histoire des sciences sur la place des sciences du végétal dans le projet colonial français. Donc, comment on a utilisé l'agronomie, la botanique pour exploiter les ressources et faire travailler les colonisés dans l'empire colonial français. Et il était toujours vivant, il m'accordait des entretiens. Et puis, j'étais aussi très admiratif de le voir s'allonger alors qu'il avait une canne, il était déjà assez âgé, dans les manifestations contre la guerre du Golfe en 1991. Donc c'est un personnage qui m'avait, disons, qui a marqué ma jeunesse. Au moment de Rio en 1992, j'étais dans une association de jeunes écolos. On l'avait invité à présenter les enjeux de Rio. Et donc, voilà, j'en ai un souvenir, disons, personnel. Ensuite, pourquoi? Il me semble effectivement que c'est un livre qui a été marquant. Il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Ça a suscité sa candidature à la présidentielle. Et ce qui est intéressant, d'une part, c'est que c'est un monsieur qui a le mérite d'avoir su changer d'avis. Il est devenu écolo, mais il ne l'était pas du tout. Dans Le problème agricole français en 1946, il disait « il faut rendre le progrès obligatoire ». Lorsque des paysans veulent pas mettre d'engrais, il faut qu'on les force. Pendant la guerre et l'occupation allemande, il était très fasciné par le modèle de production intensive allemande, et il disait les agriculteurs français doivent être conscients que les Allemands nous regardent.
La question de la faim, de nourrir la population, était pour lui centrale, en fait.
Ouais. Et c'est d'autant plus frappant de le voir à la fin des années 60 devenir critique des révolutions vertes, effectivement, du productivisme en général. Donc c'est une première raison de voir quelqu'un qui a su traverser le siècle productiviste, comme dit Serge Audier, et qui en est sorti bien avant beaucoup de monde, qui a été un lanceur d'alerte à ce moment-là. Peut-être une deuxième raison, c'est que c'est aussi une figure marquée par le socialisme dès sa jeunesse. De par sa culture familiale, il a travaillé au cabinet de Monet sous le Front populaire. Il a représenté dans les années 70 une variante idéologique de l'écologie qui est une variante écosocialiste, extrêmement planificatrice, technocratique d'une certaine façon, comme le projet du Club de Rome, mais extrêmement égalitaire. C'est-à-dire, les ressources de la planète sont limitées, nous sommes en train de la dérégler, mais il faut partager ces ressources limitées. Il n'est pas question d'une écologie des riches qui chercherait à protéger la nature pour quelques privilégiés. C'est vraiment un projet, disons, éco-socialiste, avec une revendication de justice entre le Nord et le Sud, et c'est là où ça se croise avec son itinéraire tiers-mondiste, en effet.
Éco-socialiste, Catherine Larrière, mais d'un éco-socialisme particulier. On entendait dans l'archive tout à l'heure sa critique de Marx et le fait qu'il mette dans le titre de ce livre le mot « utopie ». J'imagine que ça intéresse la philosophe que vous êtes.
Et je dirais oui, au sens où peut-être il est contemporain d'une transformation de la signification de l'utopie. Je veux dire, l'utopie, on a souvent considéré que c'était un projet social projeté dans un lieu inexistant, dans un avenir inexistant. Je pense que en disant l'utopie ou la mort, et bon, Françoise Daubonne, dont on parlera après, dit aussi quelque chose, dit un peu la même chose, c'est dire l'utopie, c'est maintenir l'ouverture des possibles. C'est-à-dire cette alternative, elle se construit pas en construisant un paradis théorique, ce que critiquent Marx et d'autres, elle se construit en montrant que il y a toujours des possibles. Vivre l'alternative sociale dans la réalité présente. Et je pense que c'est ce type de conception de l'utopie qui me paraît très, tout à fait pertinente que Dumont introduit.
On peut, de ce point de vue-là, Christophe Bonneuil, le replacer dans un moment de la pensée de gauche avec d'autres auteurs qui vont, à la même époque, rencontrer un public aussi relativement large, au-delà du monde académique, en fait, à travers des livres qui sont des best-sellers. On peut penser notamment à André Gortz.
Oui, André Gortz, Ivan Illich, Cornelius Castoriadis, qui passe d'une critique du très marxiste du néo-capitalisme à des approches plus proche de la question écologique dans les années 70, Edgar Morin. Également, effectivement, il y a une effervescence intellectuelle dans ces années 70. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on redécouvre tout. On parle d'effondrement, alors qu'il y a 4 fois le mot effondrement dans le livre de René Dumont. On avait des penseurs et des penseuses de l'écologie avec Françoise Daubonne assez incroyables dans les années 70. Et on peut se demander qu'est-ce qu'on a fait depuis 50 ans, alors qu'on avait les alertes scientifiques, elles étaient là, et les penseuses et les penseurs étaient là.
On pourrait dire René Dumont, premier collapsologue en langue française.
Non, bah, disons, il est extrêmement alarmiste. Son titre, c'était La fin de la civilisation industrielle. La fin d'une civilisation, c'était le titre qu'il voulait donner à son livre avant que l'éditeur ne le convainque de l'appeler l'utopie ou la mort. Donc l'utopie n'était pas forcément son projet initial. Par contre, il y avait la fin d'une civilisation. Donc il lance vraiment une alerte extrêmement forte. Mais René Dumont, c'est quand même un optimiste indécrottable. C'est-à-dire qu'il pense que avec une bonne planification de la justice sociale et des politiques qui suivent les experts, on va s'en sortir. Donc, on n'est pas du tout dans un schéma pessimiste.
Oui, si vous voulez, le schéma pessimiste ou la collapsologie, il y en a deux formes. Il y a la forme où on va présenter la catastrophe pour pouvoir l'éviter. Ça, c'est ce que fait Jean-Pierre Dupuis dans le catastrophisme éclairé. Et puis, il y a la forme des collapsologues type Servigne ou Cochet qui dit, de toute façon, on ne peut pas l'éviter, on y va. Hein. Donc, on peut juste essayer de trouver les moyens de ne pas souffrir trop. Dumont, s'il avait un catastrophisme, ce serait plutôt du genre Dupuis. Hein, on va représenter le danger pour mieux l'éviter. Et je crois que Christophe a raison. Il ne va même pas jusqu'à la représenter complètement. Hein. Il montre simplement que l'avenir est encore ouvert. Et en ce sens-là, il n'est absolument pas collapsologue.
Et d'ailleurs, oui, il y a une petite tension. Lorsque les écolos viennent le chercher pour la présidentielle de 1974, il est notamment, il y a le courant de l'agriculture biologique qui est très critique sur les pesticides et lui ne va pas jusqu'à dénoncer les pesticides et même les engrais de synthèse. Il dit il en faut quand même. Et donc, il est candidat des écolos en 1974, il a un débat de fond avec des écolos qui sont plus écolos que lui à ce moment-là.
Je crois qu'à ce moment-là, l'idée que avec une agriculture non totalement avec des engrais industriels, etc., on peut nourrir en 72, il y a 3,5 milliards d'humains, ce qui nous paraît peu, mais bon, est pas tranché. Et c'est bien après Dumont, moi, que j'ai entendu un certain nombre de spécialistes d'agronomie dire on peut nourrir la planète entière et se passer des phytosanitaires. Mais ce n'est pas le cas à l'époque de Dumont.
Alors ce livre, L'Utopie ou la mort, 1973, va avoir des conséquences, vous en parliez tout à l'heure et on en parlera demain, des conséquences directement politiques, puisque il va être à l'origine de cette candidature à l'élection présidentielle de 1974, et quand on sait le rôle que jouent les élections présidentielles sous la Ve République, c'est un événement important qui marquera la naissance de l'écologie politique en France, mais ça c'est le programme de demain. Mais autre conséquence, parmi de multiples, un débat qui va amener certains ou certaines à répondre à Dumont, à engager la conversation avec lui. Et c'est le cas d'une autrice que vous connaissez bien, Catherine Larère, pour avoir travaillé sur son œuvre. C'est Françoise Daubonne qui va choisir de titrer un livre qui suit la parution de celui de Raymond, de Dumont, en écho, en fait, à celui de René Dumont.
Alors, elle publie le féminisme ou la mort en 1974. Et le titre est ouvertement lié à L'Utopie ou la mort qui est paru un an avant. Alors, je sais pas si c'est l'éditeur ou elle, ça, on n'en sait rien. On sait par ailleurs que elle connaît Dumont et elle a soutenu sa campagne. Donc, c'est pas une coïncidence. Alors, très vite, Françoise Daubonne, c'est une polygraphe. Hein, elle a écrit plus de... Elle a publié plus de 100 livres.
C'est deux fois plus que Dumont.
Oui. Non. Et, bon, alors, qu'est-ce qu'elle est ? C'est une féministe. Elle a soutenu beaucoup la Simone de Beauvoir. Elle a une grande admiration quand Simone de Beauvoir, à la fin des années 50, publie Le Deuxième Sexe. Elle est engagée politiquement. Elle va même être au Parti communiste dans les années 50 comme quantité de gens. Et elle va, donc, du côté féministe, elle va être liée au MLF et surtout au mouvement, au front homosexuel. Et elle aussi rencontre la question écologique. Elle aussi, c'est le rapport Meadows, hein, le rapport du Club de Rome, qui elle aussi, comme Dumont, elle accorde énormément d'importance à la question démographique. Hein. Nous sommes trop nombreux. Alors elle, ce qu'elle va faire et qui est son apport propre, d'où le terme d'écoféminisme qu'elle introduit dans son livre de 1974 et dont elle va faire finalement le titre d'un livre de 1978 qui s'appelle Écologie et féminisme.
C'est la première à l'employer, écoféministe.
C'est la première. Personne n'a trouvé de d'occurrence antérieure. Et toute la question quand ça repasse aux États-Unis, c'est est-ce qu'on réinvente le mot ou est-ce qu'on lui emprunte? Donc, on peut dire que c'est elle la première à l'employer. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle va lier, hein, et ça va être une constante ensuite de l'écoféminisme, elle va lier la domination des femmes et l'exploitation destructrice de la nature, qu'elle va lier comme le lien entre le patriarcat et le capitalisme. Et pour elle, le lien qu'elle fait remonter très 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 haut dans le temps, hein, même avant l'Holocène quasi, c'est le lien donc entre l'exploitation de la fertilité de la terre et l'exploitation de la fécondité des femmes. Et donc sa réponse, elle, à ce moment-là, c'est la grève des ventres. Hein. Les femmes doivent reprendre en main leur contraception et donc se libérer de la tutelle masculine en se libérant de l'obligation de faire des enfants. Et donc, elle aussi, le féminisme ou la mort, bon, ce qu'il y a de commun avec Dumont, donc non seulement la question démographique, l'importance de l'écologie, mais c'est l'idée que sans... Alors, elle ne parle pas de révolution, elle parle plutôt de mutation. Sans mutation, on va à la catastrophe. Il faut dire que cette atmosphère de début d'écologie dans les années 70 est très catastrophiste.
Christophe Bonneuil.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi bien Daubonne que Dumont viennent d'une même veine qui les amène à l'écologie, c'est les alertes démographiques, c'est le néo-malthusianisme des années d'après-guerre avec des conférences mondiales. D'ailleurs, il y a un débat entre Sauvy qui refusait
Alfred Sauvy.
Le néo-malthusianisme et Dumont, qui étaient amis par ailleurs, mais en désaccord sur cette question. Et dans cette histoire du néo-malthusianisme des décennies d'après-guerre, il y a un peu deux variantes. Il y a la variante variante conservatrice, on va laisser mourir les pauvres, et la variante progressiste avec Daubonne sur l'émancipation féminine, le rejet du patriarcat, et puis la version Dumont avec le partage des ressources. À partir du moment où la planète est finie, la question du partage et de l'égalité se repose d'une façon plus aiguë. On ne peut plus compter sur la croissance pour différer la question du partage.
Cette dimension féministe, elle est absente chez René Dumont. On a vu hier, on en parlait, qu'à 15 ans, il distribuait un tract pour le droit de vote des femmes, qu'il a milité pour l'IVG, pour la contraception. Pour autant, ça fait pas partie de sa vision. Il n'est pas écoféministe, et c'est en cela que le livre de Françoise Daubonne ajoute.
Oui. Alors, j'ajouterais d'ailleurs que le livre de Françoise Daubonne, au moment où il paraît, il a eu à peu près aucun écho. Hein. Elle a bien essayé de lancer un petit mouvement au féminisme, mais bon, ça a tourné court, et elle-même s'intéressera à d'autres choses. Hein. Elle va monter un attentat contre la centrale de Fessenheim en construction. Donc, bon. Mais, oui, non, je pense pas que Dumont... Alors, Dumont était certainement... Je le rencontre alors que je suis une très jeune femme, et bon, et c'est aussi les années féministes, hein, donc je suis un petit peu sensible à ce genre-là, ce genre de choses, et j'y serais liée, mais Dumont n'était certainement pas un défenseur de la supériorité mâle. Il était certainement pour les droits des femmes. Dans sa vie personnelle, et je le dis pour l'avoir reçu chez moi, ben je me suis rendu compte que recevoir Dumont chez soi, ça voulait dire que les repas devaient être servis à une heure précise, ne devaient pas durer plus d'un temps précis, qu'ensuite il devait pouvoir faire une sieste et qu'à l'issue de cette sieste, on devait lui servir un thé à température où il pouvait le boire. Ce qui demandait ce qu'on appelle du care maintenant. Hein. C'est-à-dire, ça n'a rien d'étonnant qu'il n'ait pas été sensible à ce à quoi on était insensible un peu plus tard, au fait qu'il se vantait beaucoup du monde, que justement cette hygiène de vie lui permettait, il était déjà vieux quand je l'ai connu, lui permettait de parcourir le monde. Bon, mais il y avait toujours des petites mains qui lui servaient son thé à la température qu'il fallait pour qu'il puisse être bu.
Un mot, Christophe Bonneuil, pour terminer. Moi, j'ai été surpris en préparant cette série d'émissions par le peu de travaux académiques sur René Dumont. Il n'y a pas de thèse soutenue sur Dumont encore. Pourtant, il y a des archives assez considérables. Et l'historien des sciences que vous êtes doit être un peu surpris de tout ça.
Oui, moi j'aimerais beaucoup. Il y a eu un master qui a été soutenu. Il y a des politistes qui s'y sont intéressés. Il y a des archives qui ont été versées au Musée du Vivant, mais qui ne sont pas encore classées. Donc on attend que ça soit classé. Et puis peut-être il y aura une belle thèse et une belle biographie qui sortira. C'est vrai que c'est un itinéraire assez remarquable. Depuis les années 30 où il était au Vietnam et où s'intéressait aux agricultures paysannes et à leur rationalité au moment où il pouvait y avoir des experts blancs qui prétendaient mieux faire que les agriculteurs vietnamiens et jusque à la guerre du Golfe à la fin du XXe siècle.
Voilà, en passant par cette candidature à la présidentielle dont nous parlerons demain avec Vanessa Jérôme et Alain Lipietz. Merci à Catherine Larère et Christophe Bonneuil. C'était donc Avoir raison avec René Dumont, Sylvain Bourmeau, attaché de production, Juliette Mouélic, Marie Dalquier, à la technique aujourd'hui Alexandre Dang et Olivier Bédard à la réalisation.